Il est 17 h et le soleil s'est couché depuis 2 h déjà. L'air est froid, la nuit noire. Une lueur trouble tombe de quelques rares réverbères. En bas de Skansen, on ne voit de la ville que des taches de lumière fumeuse. Des souffleurs de verre et des orfèvres œuvrent dans les petits chalets. Yona traverse le marché de Noël. Des feux rougeoient, des chevaux s'ébrouent, des châtaignes grillent. Des enfants courent dans un labyrinthe en pierre, quelques-uns boivent du chocolat chaud. La musique résonne, des familles font la ronde autour d'un grand sapin sur la piste de danse circulaire. Le téléphone sonne. Yona s'arrête devant un stand de saucisses et de viande de renne. Yona ?
Eric Maria Bark à l'appareil.
Salut.
Je crois que Lydia a emmené Benjamin à la maison hantée de Yussi. C'est quelque part près de Dorothea, dans le comté de Västerbotten en Laponie.
Vous croyez ?
J'en suis presque certain. Il n'y a plus de vol aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de venir, mais j'ai réservé 3 billets pour demain matin.
Bien, dit Yona. Envoyez-moi un SMS avec toutes les informations concernant ce Yussi afin que je contacte la police de Västerbotten. En descendant l'une des étroites allées gravillonnées qui mènent au restaurant Soliden, Yona entend derrière lui des rires d'enfants qui le font frissonner. Le joli restaurant à la façade jaune est décoré avec des guirlandes électriques et des branches de sapin. Dans la salle, des plats de Noël ont été disposés sur 4 tables gigantesques. Dès que Yona passe la porte, il aperçoit ses collègues. Ils sont installés près des immenses fenêtres qui offrent une vue imprenable sur la baie de Nibroviken et de Södermalm.
« On est là !» crie Anya.
Elle se lève et lui fait signe de la main. Son enthousiasme réchauffe le cœur de Yona. Le malaise rampant qu'il éprouve depuis sa visite au docteur à Ulrocker ne l'a toujours pas quitté. Il salue tout le monde et s'assied près d'Anya. Carlos Eliasson est en face de lui. Il porte un bonnet de Père Noël et hoche joyeusement la tête en direction de Yona.
« Nous avons déjà trinqué », confie-t-il.
Sa peau habituellement blafarde rougit légèrement. Anya tente de glisser sa main sous le bras de Yona, mais il se lève et dit qu'il va chercher à manger. Il avance entre les tables pleines de gens qui mangent et discutent, et constate qu'il n'arrive vraiment pas à s'immerger dans l'ambiance festive de Noël. C'est comme si une partie de lui était encore dans le salon des Samuelson, ou dans la clinique psychiatrique d'Ulrocker. Yona prend une assiette sur la pile, se met dans la queue pour le hareng, et observe ses collègues à distance. Anya a moulé son corps rond et boudiné dans une robe rouge angora. Elle porte toujours ses bottes d'hiver. Peter est absorbé dans une conversation avec Carlos. Sa tête est rasée de frais et son crâne moite de sueur luit sous les lustres. Yona se sert de hareng à la moutarde et de hareng mariné, puis reste où il est. Il regarde une femme d'une autre fête. Elle porte une robe gris clair près du corps et 2 fillettes bien coiffées la conduisent au chariot de dessert. Un homme en costume gris-brun leur emboîte le pas avec une fille plus petite en robe rouge. Il n'y a plus de pommes de terre dans la casserole en cuivre jaune. Yona attend un bon moment avant qu'une serveuse vienne la ravitailler avec un saladier de pommes de terre fumantes. Il ne voit aucune trace de son plat préféré, le pudding chou navet finlandais. Yona tient son assiette en équilibre et zigzague entre les officiers qui en sont déjà à leur 4e service. Près de la table, 5 légistes braillent « Elangor » en levant leur petit verre de schnapps. Yona s'assoit et sent aussitôt la main d'Anya sur sa jambe. Elle lui sourit. « Tu te souviens que tu m'as dit que je pourrais faire ce que je voudrais avec toi ?» plaisante-t-elle. Puis elle se penche et chuchote d'une voix forte
« Je veux danser un tango avec toi ce soir !»
Carlos l'entend et crie
« Anya Larsson, nous allons danser le tango toi et moi !»«
Je vais danser avec Yona !» dit-elle d'un ton décidé.
Carlos penche la tête sur le côté et bredouille
« Je prends un ticket !»
Anya fait la moue et goûte sa bière.
« Comment c'était à Ulrocker ?» demande-t-elle à Yona.
Il grimace. Et Anya lui raconte l'histoire d'une tante qui n'était pas particulièrement malade, mais qui avait été lourdement médicalisée parce que c'était plus commode pour le personnel. Yona hoche la tête. Il s'apprête à mordre dans son saumon fumé, mais s'arrête net au milieu de son mouvement. Il se souvient enfin de ce que Langfeldt lui avait appris de si important.
Anya, dit-il, j'ai besoin d'un rapport de police.
Elle glousse.
Pas maintenant, quand même, dit-elle.
Demain alors, mais aussi tôt que possible.
Quel rapport ?
Une affaire d'agression. Lydia Evers a été interpellée pour coups et blessures sur un enfant dans un terrain de jeu.
Anya sort un stylo et griffonne quelque chose sur le reçu devant elle.
C'est dimanche demain, c'est mon jour de grâce matinée,
dit-elle d'un ton boudeur.
Tu vas devoir faire une croix dessus.
Tu danses avec moi alors ?
C'est promis, chuchote Yona.
Carlos s'est endormi sur une chaise dans les vestiaires. Peter et ses amis sont allés en ville pour continuer la soirée au Café Opéra. Yona et Anya ont promis de veiller à ce que Carlos rentre chez lui sain et sauf. En attendant le taxi, ils sortent prendre l'air. Yona conduit Anya sur la piste de danse et la met en garde contre la fine couche de glace qu'il croit deviner sur le bois sous leurs pieds. Ils dansent et Yona fredonne doucement.
« Épouse-moi !» chuchote Anya.
Yona ne répond pas. Il pense à Disa et à son visage mélancolique. Il pense à leur amitié durant toutes ces années, à la façon dont il a dû la décevoir. Anya tente d'atteindre son oreille pour la lui lécher et il écarte doucement la tête.
« Yona !»
gémit Anya.
« Tu danses tellement bien !»«
Je sais !» chuchote-t-il en la faisant pivoter.
Une odeur de bois brûlé et de vin chaud les enveloppe. Anya se colle de plus en plus près de lui et il se dit qu'il va avoir du mal à conduire Carlos jusqu'à l'arrêt de taxi. Il ne faudrait pas qu'il tarde à descendre les escalators. À cet instant, le téléphone sonne dans sa poche. Anya gémit de déception quand il s'écarte et répond.
Yona Lina.
Bonsoir,
dit une voix tendue.
C'est moi, Joachim Samuelson. Vous êtes venu chez nous plus tôt dans la journée.
Oui, je sais qui vous êtes,
dit Yona. Il pense à la manière dont les pupilles de Joachim Samuelson se sont dilatées quand il lui a parlé de Lydia Evers.
Je voulais savoir si nous pouvions nous voir,
dit Joachim Samuelson.
J'ai quelque chose à vous dire.
Yona regarde l'heure, il est 21h30.
Pourrait-on se voir maintenant ?
Demande Joachim qui ajoute spontanément que sa femme et sa fille sont parties chez ses beaux-parents.
Très bien, dit Yona. Est-ce que vous pouvez venir au commissariat, devant l'entrée qui donne sur Polomsgatan dans 3/4 d'heure ?
Oui,
dit Joachim, dont la voix semble terriblement lasse.
Désolé, chérie, dit Yona à Anya qui l'attend au milieu de la piste de danse. Mais il n'y aura plus de tango ce soir.
Tant pis pour toi, répond-elle d'un ton acide.
Je ne supporte pas l'alcool fort,
soupire Carlos quand il commence à le conduire vers la sortie.
Ne gerbez pas, dit Anya brusquement, ou j'exige une augmentation.
Anya, Anya,
dit Carlos blessé au vif. Joachim est assis dans une Mercedes blanche de l'autre côté de la rue, en face de l'entrée de la direction centrale de la Rijkskrim. Le plafonnier allumé éclaire son visage fatigué et solitaire d'une lueur morne. Quand Yona frappe à la vitre, il sursaute comme s'il avait été plongé dans ses pensées.
« Bonsoir, » dit-il en ouvrant la portière. « Montez, asseyez-vous. »
Yona s'installe sur le siège passager. Il attend. Une vague odeur de chien imprègne la voiture. Une couverture pleine de poils est étalée sur le siège arrière.
« Vous savez, dit Joachim, quand je repense à moi comment j'étais quand Johan est né, c'est comme si je repensais à un étranger. J'ai eu une enfance perturbée, j'étais un enfant placé, je me suis retrouvé en foyer pour jeunes délinquants. Mais quand j'ai rencontré Isabella, je me suis pris en main, j'ai entrepris de vraies études. » J'ai passé mon diplôme d'ingénieur l'année où Johan est né. Je me souviens qu'on est parti en vacances. Je n'étais jamais allé en vacances. Nous sommes partis en Grèce. Et Johan avait tout juste appris à marcher et...
Joachim Samuelson secoue la tête.
C'était il y a longtemps. Il me ressemblait beaucoup. Le même.
Le silence s'installe dans la voiture. Un rat gris et humide file en dodelinant le long du trottoir et des buissons remplis d'ordures.
Que vouliez-vous me dire ?
Demande Yona au bout d'un moment. Joachim se frotte les yeux.
Vous êtes certain que c'est Lydia Evers qui a fait ça ? Demande-t-il d'une voix faible.
Yona hoche la tête.
« J'en suis convaincu, » dit-il.
« Dans ce cas, » chuchote Joachim Samuelson en tournant son visage fatigué et ridé vers Yona, « je la connais. Je la connais très bien. Nous étions ensemble au foyer.
Vous avez une idée de ce qui aurait pu la pousser à enlever Johan ?»«
Oui, » répond Joachim Samuelson avant de déglutir bruyamment.
Là-bas, au foyer, Lydia n'avait que 14 ans quand ils ont découvert qu'elle était enceinte. Ils ont évidemment été terrorisés, alors ils l'ont forcée à avorter. Il fallait que personne ne le sache, mais... Il y a eu un tas de complications, une grave infection dans l'utérus qui s'est propagée dans les ovaires, mais on lui a prescrit de la pénicilline et elle s'en est remise.
Joachim pose ses mains tremblantes sur le volant.
« Je me suis installé avec Lydia après le foyer. On habitait dans sa vieille maison à Rotebro et on a essayé d'avoir des enfants. C'était une obsession pour elle. » Mais ça n'a pas marché. Alors elle a pris rendez-vous chez un gynécologue pour se faire examiner. Je n'oublierai jamais le jour où elle est revenue de sa visite et m'a annoncé qu'elle était stérile à la suite de l'avortement.
« C'était vous qui l'aviez mise enceinte au foyer ?» dit Yona.
« Oui.
Donc vous lui étiez redevable d'un enfant ?» dit Yona comme pour lui-même.